Bonjour, c'est avec un plaisir renouvelé que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont nous vous remercions. Nous avons intitulé cette émission « Les chevaux de Saint-Marc ». Alors, un petit rappel géographique et historique. La cité de Byzance, en grec Byzantion, a été fondée en moins 667 sur les rives du Bosphore, à l'endroit où la mer de Marmara rejoint la mer Noire, que les Grecs du reste appelaient le pont Euxin. Elle est occupée par les Athéniens vers moins 470, retrouve son indépendance en moins 358 et devient une des principales puissances maritimes de cette époque. Assiégée à plusieurs reprises par Philippe de Macédoine entre moins 341 et moins 339, elle est prise par l'empereur romain Septime Sévère qui l'a fait raser en 196 après le Christ. En 330, l'empereur romain Constantin Ier l'a choisi pour capitale lors du partage de l'Empire romain en deux entités distinctes et prend le nom de Constantinople. C'est ce qu'on appelle l'Empire romain d'Orient puisque l'autre Rome restait l'Empire romain d'Occident. Enfin, c'est en 1453 qu'elle devient la capitale de l'Empire ottoman et prend le nom d'Istanbul qui est toujours le sien actuellement. Mais nous allons le voir maintenant, la ville aux trois noms n'était pas arrivé au bout de ses avanies au sens le plus étymologique du terme. Dès le XIe siècle, la politique menée par les doges et les grandes familles marchandes vénitiennes ont permis à Venise de devenir la première puissance économique de la Méditerranée et de se poser en trait d'union entre le monde chrétien occidental et le monde oriental, chrétien lui aussi pour ce qui concerne Byzance, et enfin le monde musulman. Nous sommes en 1204. Le pape Innocent III appelle à la quatrième croisade pour récupérer Jérusalem, prise par Salatin 17 ans plus tôt. Une coalition se met en place, composée principalement de Vénitiens, de Génois, de Francs, de Catalans, qui s'emparent de Byzance et la mettent à sac. Et entre parenthèses, cet épisode a laissé des traces, puisque aujourd'hui encore, dans la langue grecque, catalan a le sens de compagnon du diable. Donc on peut dire que ces gens-là n'ont pas laissé un très bon souvenir. Virginie, n'est-ce pas ce moment-là qu'apparaît devant nos yeux éblouis le fameux quadrige, ces quatre chevaux de bronze attelé? En premier lieu, d'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés à Venise?
Il y a beaucoup d'interrogations quant à leur origine. Certains disent qu'ils sont d'origine grecque, d'autres qui disent qu'ils sont d'origine romaine. Ce que l'on sait, c'est que ces chevaux ont dominé l'entrée de l'hippodrome de Constantinople, probablement sur un pilier, d'autres disent sur une arche, mais il semblerait qu'ils soient postés au-dessus de la ligne d'arrivée de l'hippodrome, saluant ainsi leurs camarades qui faisaient des courses de chars ou qui étaient tout simplement montés par des jockeys.
Et est-ce que tu pourrais nous faire une petite description, finalement, à quoi ressemblaient-ils ces chevaux?
Alors, ce sont des chevaux assez trapus, une encolure puissante, crinière coupée en brosse, un toupet noué au-dessus du front, de petites oreilles, de grands yeux, la plupart d'entre eux, un des antérieurs relevés.
Ces chevaux, évidemment, n'étaient pas faits en matériaux pleins, mais étaient creux, bien évidemment. Donc, c'était des chevaux faits selon les techniques des fondeurs. Et justement, ces fondeurs utilisaient quelles techniques, grosso modo?
En ce qui concerne les bronzes antiques, ceux-ci étaient coulés entre deux moules de terre. L'intérieur du moule extérieur donne la forme et la beauté de l'objet de métal, et le moule intérieur ne servait qu'à obtenir un objet creux et donc relativement léger. Le bronze était fondu et coulé à une température supérieure à 1100 degrés. On parle de ces chevaux comme étant des chevaux en bronze doré, mais les analyses ont prouvé que 96% du métal, en fait, était du cuivre.
Du cuivre, oui, absolument. Donc, ils étaient faits essentiellement avec du cuivre, effectivement. Donc, je pense qu'il y avait aussi quelques petits composants à côté.
De l'étain.
De l'étain, voilà.
Et du plomb.
Et du plomb. Et alors, ces chevaux, vraiment stupéfaits les visiteurs, effectivement, étaient extrêmement brillants. Et il semblerait que la dorure des chevaux doit beaucoup à l'utilisation du mercure.
Absolument.
Donc la technique consistait à passer ce produit sur l'ensemble de la sculpture et une fois séché, on la grattait en stries parallèles, ce qui la rendait éblouissante sous les rayons du soleil. Et c'est vrai que dans la Grèce orientale, on a beaucoup de chroniques où les statues de dieux, etc., projetaient une lumière, des rayons lumineux extrêmement forts. Enfin ça frappait les voyageurs. Voilà, c'était des statues qui brillaient énormément. énormément. Alors, tu nous as dit à quoi ressemblent ces chevaux. Ont-ils des formes naturelles ou des formes qui ont légèrement été modifiées et peut-être pour quelles raisons? Est-ce que finalement, c'est toujours la même chose en art? Est-ce que l'œuvre d'art correspond tout à fait à la réalité de l'animal vivant, par exemple, quand c'est un animal? Est-ce qu'il n'avait pas une sculpté d'une certaine façon, dans la mesure où il n'était pas forcément placé à vue d'œil des spectateurs?
Oui, absolument. On pense qu'ils étaient donc sur un piédestal ou sur une arche. Donc, ils ont des jambes qui sont longues et des dos qui sont courts, ce qui suggère que quand on les voyait d'en dessous.
Donc, ils étaient conçus pour être vus
d'en bas.
Voilà. D'accord, absolument. Et s'ils avaient eu exactement les dimensions d'un cheval normal, ce que les gens auraient vu, ça aurait été un cheval très déformé, enfin très bizarre.
Tout à fait.
Donc, ça veut dire que ces sculpteurs connaissaient très bien leur métier.
Absolument.
Alors, chaque cheval est légèrement différent et ce que l'on voit, c'est que les têtes ont été coulées à part. Hein. C'est-à-dire, ça n'a pas été fait d'un seul bloc. Hein. Alors, on trouve à la base du cou de chacun des chevaux un collier qui cache la soudure. Hein. Voilà, ça, on le remarque bien. Hein. Pour ceux qui sont allés, par exemple, à Venise, on le remarque très bien.
Et c'est assez caractéristique des sculptures, des statues équestres également de l'époque.
Hein. D'accord. Alors, techniquement, ce bourrelet, en quelque sorte, est indispensable, évidemment, à la solidité de l'ensemble. Le bronze, ça pèse lourd. Je me demande si cette forme de collier ne donnerait pas d'intéressantes précisions sur la façon de monter à cette époque. Parce que, comme les Romains, les Grecs montaient à cru.
Oui, alors là, toute l'interrogation qui se pose concernant l'ensemble, c'est qu'aussi il a été évoqué donc qu'il soit les chevaux d'un quadrige. Donc un quadrige, c'est un char antique à deux roues avec quatre chevaux de front. Il a été notamment évoqué, parmi les hypothèses concernant leur origine, qu'ils étaient originaires de l'île de Chios, en Grèce, et qu'ils auraient été les chevaux du quadrige d'Apollon.
Absolument. Donc, alors ça, on va peut-être en reparler effectivement un tout petit peu plus tard. Moi, ça m'a vraiment intéressé parce que bon, on sait qu'à cette époque-là, le harnachement sino-mongol n'était pas encore parvenu jusque-là. Ça, c'est bien évident. On savait aussi donc que les Romains montaient à cru. Les gens montaient sans mort. Donc, ou peut-être des fois une ficelle dans la bouche, mais pas grand-chose. Donc, c'était aussi en tirant sur le collier qui était à la base du cou du cheval, à la base de l'encolure, de gêner la respiration de l'animal pour l'empêcher de s'emporter. Et puis, plus prosaïquement, éviter de se casser la figure. Donc, on se cramponnait au collier comme une bouée de sauvetage. Alors, accordons-nous maintenant une pause musicale avec un extrait du concerto Antonio Vivaldi, L'Amoroso. C'est le Cantabile. Alors ce quadrige est d'autant plus précieux que les sculptures métalliques de l'Antiquité sont plutôt rares, Virginie.
Oui, Michel, nous on a l'habitude davantage à des sculptures en marbre, entre autres.
Et alors, une colle, connaît-on le sculpteur qui a réalisé ce quadrige? D'abord, est-ce qu'on le connaît ou est-ce qu'on a des doutes ou est-ce qu'on se dit peut-être?
Non, on ne le connaît pas. En fonction des hypothèses, dans l'hypothèse où ces chevaux sont d'origine grecque et remonteraient donc au 4e siècle avant Jésus-Christ, ils ont été attribués à Lysippe, qui est le grand sculpteur d'Alexandre le Grand, très célèbre pour ses sculptures de chevaux. Donc c'est la qualité esthétique de ces chevaux qui a fait penser à Lysippe. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'oriente davantage vers une datation plus proche de 300 avant notre ère, voire 100 ans avant notre ère. Et ça, les spécialistes le suggèrent, notamment à cause du traitement des oreilles, du toupet et des yeux. Voilà, c'est un grand point d'interrogation, ça fait partie de leur mystère.
Est-ce qu'on pourrait dire deux mots aussi sur le quadrige? Donc c'est des chevaux attelés à un char, bien sûr. Alors évidemment, c'est la course en hippodrome, ça, bien sûr. Mais est-ce que ça ne rappelle pas aussi le dieu Apollon, qui était au fond le dieu de la lumière, qui baladait la lumière d'est en ouest, etc., sur un char justement attelé, sur un quadrige, un char attelé de quatre chevaux?
Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai suggéré tout à l'heure en parlant de l'île de Chios, puisqu'on sait qu'il y avait un célèbre quadrige, le char d'Apollon sur l'île de Chios, face à un autre quadrige d'Hélios. Mais bon, tout cela reste
hypothétique.
Exactement.
Hypothèque, oui. Alors, on sait que les chevaux aiment se déplacer, Virginie, hein, mais ces quatre-là ont battu des records.
Ah oui, ils ont une vie mouvementée.
Alors, de Byzance, ils se sont baladés à travers toute l'Europe et ont même fait des petits en cours de route. Pourtant, c'était des entiers. Est-il possible de retracer leur itinéraire, finalement? Bon, ils sont a priori sur l'hippodrome de Byzance, et puis on les retrouve à Venise. Alors déjà, comment ont-ils fait ce saut? Ils ne sont pas partis tout seuls.
Hein. Ah non, ils ont parti, comme tu l'as évoqué tout à fait au début de cette émission, lors du sac de Constantinople. Donc l'hippodrome a été détruit, les chevaux ont été emportés. Ils sont très symboliques, comme tu le rappelais, de cet Orient. Donc ils ont été transportés à Venise, où on les a oubliés pendant une cinquantaine d'années, jusqu'à ce que les ambassadeurs de Florence les voient et alors suggèrent qu'on les remette en avant. Et donc, ils ont été placés sur la tribune de la façade de la basilique Saint-Marc. C'est pour ça qu'on les appelle aujourd'hui les chevaux de Saint-Marc. Et leur place là n'est pas anodine, car ils sont symboliquement comparés aux quatre évangélistes qui formeraient le quadrige avec le Christ à la tête de l'attelage. Et ainsi, l'expression de la victoire de l'Occident sur l'Orient.
Voilà. Alors aussi, bon, ben, ces pauvres chevaux ont eu affaire à pas mal de voleurs, on va dire. Je crois que Bonaparte les a fait enlever aussi.
Tout à fait. Lors de la campagne d'Italie qui a eu lieu entre 1796 et 1797, Bonaparte les fait enlever. C'était pas une mince affaire puisqu'ils font 900 kilos chacun et qu'ils mesurent 2,33 m de haut et 2,53 m de long. Donc ils ont été descendus du portique de la basilique en présence de la foule des Vénitiens et de l'armée d'Italie et transportés dans des barges jusqu'à Paris où après diverses vicissitudes, ils sont placés sur le tout neuf arc de triomphe du carrousel.
D'accord. Et puis bon, on sait qu'en 1815, patatras, c'est la défaite de Waterloo et donc l'abdication de Napoléon. Alors, ces chevaux, en fait, font partie de nombreuses œuvres que la France doit restituer à leurs propriétaires.
Ils quittent Paris et repartent à Venise où ils reprennent leur place d'origine.
Je crois que ce sont les Autrichiens qui ont fait ça, qui étaient vainqueurs de Waterloo. Donc, bon, ils se sont dit, on reprend les chevaux et on les ramène au point de enfin, pas vraiment au point de départ, mais enfin, bon, à Venise. Où ils se trouvent actuellement, puisqu'ils ont été remplacés en 1977 par des copies, évidemment.
Oui.
Donc les vrais, j'ose pas dire en chair et en os, mais on peut les voir où?
Ben, on peut les voir toujours à la basilique, mais cette fois dans le musée qui se trouve à l'intérieur de la basilique.
Le musée Marciano, je crois.
Voilà.
D'accord.
Et c'est là où sont
conservés
les chevaux
les
qui
originaux.
Sont constamment restaurés.
Voilà. Alors un petit détail pour en revenir à Paris, les chevaux que l'on voit sur l'arc de triomphe du carrousel, toujours actuellement, sont des copies réalisées en 1828 par le sculpteur sculpteur François-Joseph Bozio et qu'il a intitulé « La paix conduite sur un char de triomphe ». Alors, ces chevaux n'en avaient pas fini puisque, revenons aux originaux, pendant la Première Guerre mondiale, le quadrige est caché au Plaza Venezia à Rome. Bon, on le planque, ce qui est bien. N'oublions pas que pendant la Première Guerre mondiale, les Italiens étaient alliés aux Français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors là, ça change, les Italiens n'étaient plus alliés aux Français, mais avec l'Allemagne nazie, on les cache dans le monastère de Pralia, près de Padoue. Donc quand même, il y a ce souci d'éviter qu'ils soient pris, volés ou simplement anéantis, ce qui montre d'une certaine façon, la force, l'intérêt que ces animaux ont pour le peuple italien, bien évidemment, mais pour les peuples en général. Alors Virginie, avant de conclure, on va peut-être se poser une question, en tout cas moi je me la pose cette question, c'est est-ce que le cheval romain, c'est la même chose que le cheval grec ?
Non, le monde grec admire le cheval. Sa beauté, ses capacités musculaires, il aime l'équitation, il porte une attention donc particulière à l'anatomie et il a une approche admirative de la beauté, de la rapidité et de la puissance du cheval. Les Romains, eux, sont essentiellement des fantassins, même si leur cavalerie est importante. Mais le cheval, dans cet esprit-là, est utilisé pour renforcer la gloire des généraux vainqueurs et sa seule fonction, c'est renforcer le prestige des puissants.
Effectivement, et on voit très bien dans la guerre des Gaules en particulier que César était obligé d'utiliser la cavalerie gauloise parce que lui n'en avait pas, six des quelques chevaux, et c'était souvent des bœufs pour tirer les chariots du camp, mais effectivement, les Romains connaissaient très peu la cavalerie. Enfin bon, c'est pas quelque chose, c'est pas une arme qui les intéressait particulièrement.
Alors, cheval romain ou cheval grec, les chevaux de Saint-Marc, de toute façon, sont de tellement beaux qu'il dépasse tous les clivages et je crois que c'est cela qui doit rester dans nos esprits.
Tout le monde aura reconnu que Virginie est une grande amoureuse des chevaux, une grande spécialiste des chevaux aussi. C'est toujours avec le même plaisir que les messagers du cheval vous donnent rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche de Rouergue 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Radio à la rubrique Le messager du cheval. Merci à toi Virginie, merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à tous les chevaux, romains ou grecs, et à toutes les juments. Ciao, ciao.